Alors, quand j'ai regardé quel était le texte d'aujourd'hui, j'étais prête à changer finalement, parce que le texte du jour nous est donné par des listes qu'on a en commun avec nos frères et sœurs catholiques. Et puis finalement, ce texte m'a paru quand même particulièrement approprié pour aujourd'hui, dans l'évangile de Marc. Et pourtant, voilà, ces deux miracles, on ne sait pas trop comment, pourquoi ils sont tellement imbriqués l'un dans l'autre. Ça commence par un échange entre Jésus et le chef de la synagogue. Alors, un chef de la synagogue, c'est un homme qui est juif, qui s'occupe des affaires, en effet, de la synagogue. Et lui, on sait son nom. Il s'appelle Jaïros. Ma petite fille est près de mourir. Quel désespoir pour n'importe quel parent de voir son enfant malade sans rien pouvoir faire. Ce chef avait sans doute des pouvoirs religieux importants. Que c'est un peu comme le métro à l'heure de pointe. Il y a une grande foule qui les presse de partout. Enfin, ça, c'était il y a pas la pandémie, mais dans le métro. Et du coup, il ne peut pas aller très vite. Et là, Jésus nous apprend quelque chose. Ils seront libres face au temps qui passe. Ils devraient se dépêcher. Nous, on aurait appelé l'ambulance depuis longtemps, faites de la place, pour vite, vite aller auprès de la petite fille. Et lui, non, il sait que son temps est dans les mains de Dieu. Bien, sa confiance en Dieu va au-delà de notre temps humain. La communion avec Dieu lui permet de vivre parfaitement l'instant présent, sans penser à ce qui suit, en remettant peut-être même. Il ne laisse pas la peur de la mort l'emprisonner. Il reste accueillant à l'autre, quoi qu'il arrive. C'est ce qui va lui faire dire un peu plus loin, n'aie pas peur, crois seulement. Jésus est en route et il sent une transformation en lui. Il s'arrête, il regarde. Les disciples se moquent de lui parce que, évidemment, ils sont pressés dans la foule, mais lui regarde autour de lui et il attend. Une femme entre en scène. Elle souffre d'hémorragie, c'est-à-dire elle a des pertes de sang. Sa maladie la rend impure parce que dans la loi juive, eh bien le sang est le symbole de la vie, donc on n'a pas le droit d'y toucher. Pas le droit, par exemple, de manger un animal avec du sang. C'est ce qu'on appelle le manger cachère. Et la femme, elle est obligée de se tenir à l'écart des autres. Elle n'a le droit de toucher personne parce que si elle touche quelqu'un, elle le rend impur, toujours d'après la loi juive. Elle n'a évidemment pas le droit d'aller prier au temple. En fait, c'est une femme qui n'existe plus aux yeux du monde. Elle est comme morte. Mais pas tout à fait. Parce qu'elle a un désir incroyable qui lui fait braver l'interdit. Elle va toucher Jésus. Elle veut guérir, elle a entendu parler de cet homme, elle va chercher de toutes ses forces la puissance de vie nouvelle que Jésus vient apporter. Alors, à ce stade de l'histoire, j'aimerais simplement remarquer que Jaïros et la osent demander. Peut-être allez-vous me dire que c'est normal et qu'ils n'ont rien à perdre. Pourtant, je connais des personnes qui préfèrent rester dans leur malheur plutôt que de demander de l'aide, de rester dans des cercles mortifères plutôt que de souffrir à une vie nouvelle. J'ai un jeune dans ma famille qui refuse de se faire diagnostiquer et pourtant il doit avoir une maladie psychique qui l'empêche de vivre normalement. Je connais dans mes amis des personnes qui sont dépendantes de l'alcool, mais ça pourrait être tout aussi bien la drogue ou autre chose, d'autres addictions. Bien, je connais aussi quelqu'un de dépressif. Refuse toute aide psychologique. Ça, c'est ce que j'appelle des cercles mortifères. C'est ne pas vouloir demander de l'aide pour se faire aider. En tout cas, Jésus ne force jamais la porte. Si on ne veut pas de lui ni de son aide, il ne viendra pas nous ennuyer. Et c'est vrai que Marion, la vie de foi n'est pas un... Il y a beaucoup d'adultes, je connais, qui ont fait leur confirmation. Et puis, la vie a fait qu'ils se sont éloignés de l'Église. Et puis, encore, à l'occasion d'une rencontre, de lecture, parfois d'épreuves, eh bien, ils sont revenus à l'Église. Ils se sont rapprochés. Peut-être qu'il faut cela pour redécouvrir par soi-même ce que la foi nous apporte. Quand on se retrouve seul, au milieu des épreuves, et loin d'un certain confort qu'on a quand il y a les parents. Mais si nous n'avons plus Jésus en face de nous, en chair et en os, pour l'appeler, eh bien, nous pouvons l'appeler quand même, parce que par son Saint-Esprit, il est présent. On peut lui demander de nous aider. Ou eh bien, il va se servir de tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est humainement possible, pour nous guérir, pour nous aider, pour nous soulager. Il va guider, par exemple, la main du médecin. Il va inspirer le psychologue. Il va mettre sur notre route des bonnes personnes. Jaïros et la femme demandent son aide à Jésus. Deux personnes qui n'ont apparemment rien à voir vont permettre à Jésus de faire émerger des nouvelles identités. En effet, au début de l'histoire, Jaïros dit « Ma petite fille va mourir, elle est très malade. » Et donc, Jésus, en parlant de cette petite fille, il ne va pas dire la petite fille. Dans le grec, c'est l'enfant. Donc, il décale de petite fille à l'enfant. Je me suis dit, vu comme les filles étaient mal considérées à l'époque, peut-être que l'enfant, il voulait simplement remettre la fille et les garçons au même niveau et dire c'est un enfant et c'est ça qui compte. Et il insiste, l'enfant n'est pas morte. Il prend le père et la mère de l'enfant, il entre là où se trouvait l'enfant, il prend la main de l'enfant pour la remettre debout. Et puis, au moment de la guérison, il utilise une phrase en araméen, donc là, c'était sans doute la langue que parlait Jésus. Voilà, c'est proche de l'hébreu, c'est pas tout à fait de l'hébreu. Et ce mot, c'est Talita Koum. Et donc, juste après, le texte traduit. Et ta traduction, Marion, était juste, parce qu'il y a beaucoup de traductions qui disent fillette. Mais c'est pas tout à fait ça. La traduction, c'est, alors là, on a entendu jeune fille, c'est une petite jeune fille. En effet, voilà, c'est important les mots, parce que finalement, au cœur de ces mots, il y a une libération en marche, une vie nouvelle. Entre petite fille et jeune fille, c'est pas tout à fait pareil. Alors la libération, bien sûr, c'est la guérison. Mais la véritable libération, c'est celle qui permet à la petite fille de devenir une jeune fille. C'est-à-dire que ça va être une jeune fille qui va... Bah, devenir plus autonome. Et en fait, c'est marrant parce qu'à la fin, au milieu du texte, quand le texte dit qu'elle marchait, c'est comme si on devait s'en étonner. C'était comme si c'était un étonnement, alors qu'elle a 12 ans quand même. Et puis 12 ans à cette époque, eh bien, c'est l'âge où l'enfant passe à l'âge adulte, c'est l'âge de la puberté et l'âge de la maturité religieuse. Dans la loi juive, l'équivalent, en fait, de la confirmation, c'est la bar mitzvah, ça se fait à 12 ans aussi. La petite fille de son père devient une jeune fille. Cela veut dire qu'elle devient une personne plus indépendante, qu'elle apprend à devenir adulte. Cela veut dire aussi que ses parents sont encore responsables d'elle pour un temps. Mais ensuite, elle devra apprendre à être seule. La jeune fille, donc, a 12 ans. Et il se trouve que cela fait 12 ans que la femme est malade de ses pertes de sang. Et en fait, quand Jésus la voit, il ne l'appelle pas femme. Et c'est là où les identités s'imbriquent dans ces deux textes, dans ces deux miracles. Il ne l'appelle pas femme, je ne sais pas si vous avez entendu comment il l'appelle, il l'appelle fille. Alors des fois on met ma fille, mais en fait le possessif est rajouté, mais en grec c'est simplement fille. Alors pourquoi? Là aussi je me suis posé la question. Eh bien, comme si quand Jésus la guérit, il la réintègre dans sa dignité. Parce que quand elle a des paires de sang, elle ne peut pas être une véritable femme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et là, il la réintègre dans sa féminité et puis dans la relation vitale de la fille au Père. Et de quel Père s'agit-il? Eh bien, du Père que Jésus est venu révéler en Dieu, le Père qui nous aime, le Père divin, ce Dieu-Père qui donne une existence à tous ceux qui n'en ont plus, surtout aux yeux de la société. Oui, Jésus donne à chacun, à chacune, une identité nouvelle, une libération. Et du coup, par notre baptême, eh bien, nous sommes reliés à lui et à nos frères et sœurs. Nous sommes dans une identité de fils et de filles à part égale devant Dieu. Et nous le vivons vraiment quand nous disons la prière que Jésus nous laisse en disant « Notre Père » ensemble. Nous le dirons tout à l'heure. Jésus propose une famille qui ne se définit plus par les liens physiques ou généalogiques, mais par le lien de la foi. Notre nouvelle filiation n'abolit pas notre filiation, mais elle la dépasse. Elle nous propose une relation d'amour qui nous fait exister nous-mêmes dans une identité libérée. Nous sommes finalement frères et sœurs aussi de nos parents et de nos enfants, à égale distance de Dieu. Et ce que nous pouvons savoir et comprendre, c'est que Dieu Père et Jésus notre frère ne nous font jamais défaut. Nous pouvons être souvent déçus par des relations humaines, même des relations proches, mais un seul ne fait jamais défaut, c'est Dieu, celui qu'on ne voit pas, et pourtant qui nous offre sa force, son énergie pour aller de l'avant et pour aller vers nous-mêmes aussi, pour nous connaître nous-mêmes davantage. Alors nous sommes des apprentis, et Marion, tu commences cet apprentissage, tu as reçu des outils dans ton éducation religieuse, à l'église, en famille, pour continuer la route. Et du coup, ça va être à toi de te les approprier et de ne pas les oublier. Alors que cela te donne confiance, parce que c'est important, la confiance. Souvent, on en parle, et les années de caté, c'est souvent ce qui ressort, le manque de confiance en soi. Bon, ça peut continuer aussi après le caté, le manque de confiance. Et si on veut obéir au commandement d'amour de Jésus qui nous dit « aime ton prochain comme toi-même », ben, faut aussi s'aimer soi-même. Et se faire confiance, parce que on peut se faire confiance aussi parce que Dieu me fait confiance. C'est la base de l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes et pour les autres. Oui, cet amour donne un sens à notre vie. Alors soyons encouragés à persévérer et écoutons Jésus nous dire « N'aie pas peur, crois seulement. » Amen.